Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Grèce. Tandis que je visitais le célèbre site de Delphes, le guide nous a rappelé la parole de Socrate, l'un des sept sages de l'Antiquité, « Connais-toi toi-même ». Nous allons partir de là. « Connais-toi toi-même ». Mais comment vais-je faire connaissance avec moi-même ? Mon identité me reste encore si mystérieuse. Mes souvenirs ne remontent guère plus haut que l'âge de 4 ans. Et si je n'avais que mes connaissances propres, je serais dans le brouillard, pour ne pas dire dans la nuit, quant à mes origines. La situation se complique encore quand on s'adresse aux philosophes et aux auteurs contemporains. Pour Albert Camus et Jean-Paul Sartre, le maître à penser des Français, la vie n'est qu'une immense duperie. La vie n'a pas de sens. Tout dans la vie n'est qu'absurdité, d'où la philosophie de l'absurde. La biologie ne peut même pas me dire si je suis un animal évolué, bien que les fibres de mon être montrent de troublantes analogies avec celles du singe, de la souris et surtout du cochon. Certains ont mis un écriteau sur le ciel. Il n'y a personne, car l'univers non plus ne devrait pas exister. Tout serait parti d'un accident, une cellule de protoplasme qui, accidentellement, se serait mise à vivre, déclenchant un processus de réaction chimique dont nous serions l'aboutissement. Le hasard, le temps et la nécessité, disait le professeur Jacques Monod. Et le hasard, si c'est lui qui nous a fait, n'a pas mal fait les choses parce que, quand je vous regarde, je vous trouve beau. Au lieu d'avoir deux yeux bien symétriques, vous pourriez en avoir un troisième au milieu du front, comme les cyclopes, ou un œil au bout du doigt, ce serait bien gênant pour enfiler ses gants, ou bien une main par-dessus la tête, ou encore une petite trompe frétillante en guise d'appendice nasal. Je plaisante, bien sûr. Mais c'est ce qui arrive quand tout est accidentel et se fait par hasard. Par hasard, si je mets dans une lessiveuse à tambour des milliers de caractères d'imprimerie et que je la fasse tourner pendant 1 heure, il n'en sortira jamais une tragédie en 3 actes et en alexandrin, jamais. Alors je pose une question. Si nous sommes si bien faits, est-ce qu'il y aurait un plan derrière notre vie? Laissons de côté cette pensée et restons plutôt dans la ligne du début. Tout conspire pour me révéler ma petitesse et mon néant. À l'échelle de l'univers, notre Terre n'est qu'un grain de sable, une petite planète, au sein d'un petit système solaire, dans une petite galaxie, au milieu de millions de galaxies et dans un univers en expansion. Et moi, qu'est-ce que je suis au milieu de tout ça? Un mini-microbe qui se démène sur une boule de poussière cosmique, absolument invisible de l'étoile la plus proche. Et ma vie? Elle risque très fort de se terminer entre l'âge moyen de 60 et 80 ans. Et ce que je pourrais avoir en plus ne serait que du bois de rallonge. À l'échelle des temps géologiques, une fois de plus, je ne suis rien. À la mort, tout s'arrête. La machine casse. Et vite, on va la mettre dans un trou, et là, comme l'a dit, je pense, le grand Bossuet, je deviens une chose innommable dans aucune langue du monde. Si nous ne sommes que ça, alors rien ne vaut rien, et tout n'en vaut pas la peine. Ce qui me permet de croire que nous sommes quelque chose et que nous valons quelque chose, c'est la Bible qui va nous l'apprendre. La Bible nous dit que Dieu et Satan s'intéressent à l'homme. Si Dieu s'intéresse à l'homme, c'est que l'homme vaut quelque chose. C'est parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et si Satan s'intéresse à l'homme, c'est parce qu'il veut détruire l'image de Dieu que l'homme porte en lui et nous rabaisser plus bas que la bête. Nous sommes l'enjeu d'une formidable partie d'échecs. Le ciel et l'enfer se livrent une gigantesque bataille pour nous posséder. Or, on ne se dispute pas un objet sans valeur et sans intérêt. Mais dans tout cela, j'aimerais savoir si j'ai mon mot à dire. Et c'est Pierre qui va nous présenter, le grand apôtre Pierre. J'aime bien l'apôtre Pierre. Et je vous lis dans le livre des Actes des Apôtres, je me tourne à présent vers la Bible que j'ai déjà citée, mentionnée, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12 et à partir du verset 1, je trouve ce récit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » J'ai dit que c'était Pierre qui allait nous représenter. Mais nous allons oublier Pierre. Dans ce sens que Pierre, c'est vous et c'est moi, c'est l'homme en général. Pierre donc, comme tout homme, a un ennemi que, selon toute vraisemblance, il n'a jamais vu ni rencontré. Cet ennemi, c'est Hérode, le grand chef. C'est à cause de lui que Pierre est en prison. Hérode, lui, est dans les coulisses. Il est derrière la scène. Il donne des ordres à ses exécutants. De même, la Bible nous apprend qu'il y a dans ce monde un mystère d'iniquité. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui essaie de nous faire aller comme des pantins. Nous savons tous que ce qui est derrière et caché est plus important que ce qui est devant et visible. Par exemple, la partie visible d'une montre est la moins importante. Je n'y vois qu'un boîtier, un cadran, 2 aiguilles, une trotteuse, des chiffres, c'est tout. Mais à l'intérieur, là où on ne voit pas, c'est là qu'il y a les pièces les plus importantes et les plus nombreuses. C'est là qu'il y a les rubis et un mécanisme très compliqué qui fait fonctionner la montre. C'est la même chose quand on regarde un film où il y a peut-être 20 acteurs visibles, mais derrière il y a des centaines de personnes, des milliers d'heures de travail et des millions d'euros ou de dollars. De même, derrière le mal qui se fait dans notre monde, il y a quelqu'un qui le conçoit, qui l'orchestre, qui le dirige et qui lui donne sa vitalité. Et ce quelqu'un, la Bible nous le révèle, c'est Satan, l'ennemi de l'homme et de Dieu. Il ne désarme jamais. Et son but, retenez-le, son but, c'est de mettre les hommes en enfer, de ce côté-ci de la vie, avant de les mettre en enfer de l'autre côté. La Bible nous dit que Satan est le meurtrier dès le commencement, et Hérode le représente bien. Hérode, fils d'assassin, assassin lui-même. Il a une armée, une police parfaitement équipée à sa disposition, et il n'a pas son pareil pour mettre les gens en cage. Les trappes à souris, les pièges à rats, les filets d'oiseleurs ne sont que des jeux d'enfants comparés à ces machines à lui. Ils sont cependant une indication de la façon dont il s'y prend pour nous mettre en cage. Le fromage que l'on met dans une trappe à rats, c'est du vrai fromage, du bon fromage, gruyère, comté ou autre. Seulement, c'est ce qu'il y a autour qui est inquiétant. L'appât que le pêcheur met au bout de sa ligne, c'est un vrai verre. Seulement, il cache un redoutable hameçon. Demandez à ces victimes comment elles en sont arrivées là. En voici quelques exemples. Quelqu'un m'a dit que je serais heureux si je gagnais beaucoup d'argent. Seulement, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que j'en perdrais le sommeil et ma sensibilité. On ne m'a pas dit que mon cœur deviendrait dur, que je perdrais ma fraîcheur d'âme. L'argent n'a été que l'appât, mais l'amour de l'argent a été la souricière contre le bonheur. Souvenez-vous de la fable de La Fontaine, où le savetier qui chantait, soudain devenu riche, en a perdu sa joie et ses chansons, et il s'est écrié « Rendez-moi mes chansons !» Combien d'hommes et de femmes ne diront-ils pas « Rendez-moi mes rêves d'enfant !» Quelqu'un m'a dit que le sexe, les histoires scabreuses, la pornographie, l'amour libre, le libertinage me rendraient heureux. Seulement, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que Don Juan lui-même était triste, et je le suis autant que lui. Je suis devenu le jouet de mes passions. Voudrais-je en sortir aujourd'hui que je ne le pourrais plus? Je me suis moqué de la vertu. Mais maintenant, la vertu a du prix à mes yeux, mais elle me paraît inaccessible. Alfred de Musset a écrit « Le cœur de l'homme vierge est un vase profond. Lorsque la première eau qu'on y verse est impure, la mer y passerait sans laver la souillure, car l'abîme est immense et la tâche est au fond. » Quelqu'un m'a dit que je deviendrais un homme si je fumais mon paquet de cigarettes chaque jour. On m'a dit que cela me donnerait un genre. Seulement, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que je ne pourrais plus m'en passer, et que cela, dans une vie, me coûterait l'équivalent d'un studio comme prix d'une vie de fumée, et que je multiplierais par 100 mes chances de mourir cancéreux. Ça, on ne me l'a pas dit. Le fils prodigue pourrait dire « Quelqu'un m'a dit que si je balayais les tabous de la maison de mon père, si je brisais les carcans de la religion, et si j'allais dans un pays éloigné pour y vivre avec les bons vivants et les jolies filles, je serais heureux. Seulement, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'on me laisserait tomber comme une vieille chaussette et que je finirais comme un cochon par garder les cochons. Ça, on ne l'a pas dit. Quelqu'un qui était le roi de la cambriole m'a dit que si on faisait un bon hold-up, un braquage de banque, on aurait de l'argent pour vivre sous les cocotiers pendant des années. Seulement, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que j'allais me faire pincer. Et maintenant, je suis fait comme un rat. Et les plus belles années de ma vie, je les passe derrière les barreaux de la prison. Ça, on me l'avait dit. Quelqu'un m'a dit que mes affaires iraient mieux si j'allais consulter la diseuse de Bonne Aventure, que ma santé s'en trouverait mieux si j'allais trouver le rebouteux ou le marabout. Seulement, ce que l'on ne m'a pas dit, c'est que dans mon âme, il y aurait des effets secondaires, et que mon âme serait blindée contre l'Évangile, et c'est vrai. J'ai consulté ces gens-là, et maintenant je me sens endurci contre la foi en Jésus-Christ. Je suis comme un cheval qui a faim, mais dont le cavalier qui le monte le retient. Des forces négatives me dominent. Je voudrais parfois me convertir, mais je ne parviens pas à faire vider les étriers à celui qui me monte. Ça, on ne me l'a pas dit. Quelqu'un m'a dit que si je me piquais à l'héroïne, je trouverais le ciel au bout de la seringue. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que le ciel de la drogue est un enfer. Et maintenant, il n'y a plus personne pour m'en sortir. Ça non plus, on ne me l'a pas dit. On m'a aussi dit qu'un verre ne pourrait pas me faire de mal. On m'a même dit qu'il y avait un Dieu pour les buveurs. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que j'y prendrai goût, que je deviendrai un alcoolique, la risée du quartier, et que comme un galérien attaché à son banc, je ramerai pour faire avancer le bateau des autres. Un jour, un homme s'est présenté à la porte d'un débit de boisson. Il avait un mètre en poche. Il a déplié son mètre, a mesuré la porte et a dit à haute voix, 2 mètres de haut, 85 centimètres de large. Puis il a remesuré cette porte et répété, 2 mètres de haut, 85 centimètres de large. Des gens intrigués par ce manège se sont assemblés de l'intérieur et de l'extérieur pour voir et comprendre ce qu'il faisait. 2 mètres de haut, 80 centimètres de large, 85 centimètres de large. L'homme s'est adressé aux gens qui étaient là, et il a dit, « Vous voyez cette porte de bistrot, elle n'a que 2 mètres de haut et 85 centimètres de large. J'avais une maison, elle est passée par cette porte. J'avais des terres, elles sont passées par cette porte. J'avais de beaux meubles, et sans être démontés, ils sont tous passés par cette porte. J'avais des économies, elles sont passées par cette porte. J'avais une bonne santé, et l'autre jour le médecin m'a dit, votre santé est passée par la porte du bistrot. J'avais une bonne réputation, on pouvait me faire confiance, et aujourd'hui on dit de moi, c'est un pauvre ivrogne. J'avais un cœur sensible, je ne pouvais pas voir ma femme et mes enfants pleurer. Mais combien de fois n'ai-je pas fait pleurer ma femme et mes enfants? J'avais un cerveau et j'en étais fier. Mais combien de fois ne suis-je pas sorti par cette porte sans savoir ce que je faisais? J'avais une conscience, je savais ce qui était bien, ce qui était mal. Mais était-ce juste, étais-je juste en montrant le mauvais exemple? Mon bonheur est passé par cette porte. Souvent je suis sorti en chantant, mais j'étais malheureux. Se tournant alors vers la porte, et avec une sorte de hargne, il a dit, « Porte de bistrot, plus jamais je ne te franchirai !» Et les autres qui étaient là ont dit, « Il a raison, il a raison !» Mais tous, trop faibles ou trop lâches, sont repassés par cette porte. On m'a dit que pour être heureux, je devais avoir un peu de religion. On m'a dit que je devais apprendre certaines petites pratiques religieuses, par exemple à me signer, à être présent occasionnellement aux grandes fêtes. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que ce serait comme la vaccination, où on vous inocule un peu de maladie pour être vacciné contre la maladie. Et c'est ce que l'on m'a fait. On m'a inoculé un peu de religion, et maintenant, je suis comme vacciné contre l'Évangile, contre la conversion et le salut. Malgré tous mes efforts, je n'ai ni certitude, ni promesse de salut, et je n'ai aucune assurance devant la mort, devant le jugement et devant l'éternité. Revenons à la Bible, et voyons pourquoi ceux qui sont pris dans ces filets, qui sont en cage, ne peuvent plus s'en sortir. Au verset 4 du récit que nous avons lu, il est écrit qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats, 4 fois 4, 16. Au verset 6, il y avait 2 chaînes qui liaient Pierre et 2 soldats qui le gardaient. Au verset 10, il y avait une première porte, une première garde, une deuxième porte, une deuxième garde, et il y avait encore la porte de la ville. C'est-à-dire que Pierre n'avait aucune chance de s'en sortir, et nous pas davantage, car notre situation spirituelle est 1000 fois pire que celle-là. Nos ennemis sont plus nombreux et plus puissants que les siens. L'Évangile nous rapporte l'histoire d'un homme qui était pris par une légion de passions, une légion de démons, une légion de penchants. Et si cela se réfère à la légion romaine, cela fait 5000 défauts, 5000 passions, 5000 gardiens. Mais il y a plus grave, c'est que cet homme que Pierre représente dort. Le temps passe et les hommes passent leur temps à dormir, inconscient que l'heure de la comparution devant Dieu s'est dangereusement approchée. Entre eux et le jugement, il n'y a plus qu'une nuit, que quelques heures, une dernière aube, et ils dorment. Ils dorment alors que leur gardien ne dort pas, alors que l'horloge qui égrène les heures ne dort pas, alors que les juges déjà ne dorment plus, que le grand accusateur est là, debout, prêt à les accuser, au tribunal qui va décider de leur avenir éternel. Dans une heure, ils vont être traînés là où le recours en grâce n'est plus possible. Ils vont basculer dans les temps de feu et de soufre, d'où on ne sort plus, et ils dorment, enfermés dans leur rêverie. Mes amis, mon ami, tu rêves à un palais et tu es en route pour les oubliettes éternelles. Tu rêves de gloire et tu es à 2 pas d'une déroute sans fin. Tu rêves d'argent, de beaucoup d'argent, et la misère, la pauvreté éternelle te guette. Tu rêves de plaisir et les tourments éternels te menacent. Je voudrais crier comme le prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous crie comme le prophète Osée, il est temps de chercher l'Éternel. Alors, comme le messager dont il est question ici, comme il s'est mis à heurter Pierre, je prends à ce moment le risque de vous heurter, quitte à me faire écharper à la sortie. Je vous dis qu'il n'y a plus un instant à perdre, car Dieu dit « aujourd'hui est le jour du salut ». Dieu dit « maintenant est le jour du salut ». Celui qui a frappé Pierre et qui lui a dit « promptement », ne nous le dit-il pas nous aussi? Si la seule vie physique, car dans ce récit il n'est question que de la vie physique, si la seule vie physique réclame un tel sérieux, à combien plus forte raison la vie de votre âme éternelle ne demande-t-elle pas la plus haute diligence? Maintenant, je voudrais voir avec vous comment le messager de Dieu s'y est pris. C'est très important. Il a commencé par réveiller Pierre. Il n'a pas commencé par endormir les gardes, par ouvrir les portes ou faire tomber les chaînes. Non, il a commencer par réveiller Pierre. Le salut de l'homme ne commence pas par son entourage. Il faut le dire. Notre problème numéro un, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Bien sûr, les autres peuvent nous créer des problèmes, mais nous sommes nous-mêmes notre premier et notre plus grand problème, si bien qu'avant de s'en prendre aux autres, Dieu doit s'en prendre à nous. Ce que Dieu veut, c'est une prise de conscience du lieu et de l'état dans lequel nous sommes. C'est ce qui se passe toujours quand Dieu visite quelqu'un. Cet homme est éveillé au sentiment de sa fausse sécurité et il prend conscience de son état de perdition. C'est toujours là que Dieu veut amener quelqu'un parce que l'homme ne peut pas désirer le salut avant d'avoir compris qu'il est perdu. Ici, le messager de Dieu, c'était un ange. Mais quand il s'agit de notre salut éternel, il nous envoie le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, comme c'est écrit dans l'Évangile de Jean. J'admets qu'être bousculé de la sorte, être tiré de ses rêves utopiques et de s'entendre dire que tout va mal, s'éveiller en sursaut comme Pierre, se découvrir enchaîné, en prison, entre deux soldats, deux chaînes, deux portes et devant soi l'exécution capitale et l'impossibilité de s'en sortir, c'est une bien désagréable mission que Dieu confie à ses serviteurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ces choses, et je dirais volontiers comme le grand prédicateur français Adolphe Monod, « Oh, la croix !» de la prédication de la croix. Retenez à présent, au milieu du verset 7, il est écrit « Voici, un ange du Seigneur survint. » Et je souligne en particulier ce qui suit. « Et une lumière brilla dans la prison. » Une lumière brille dans la prison. C'est-à-dire qu'au sein d'une situation sans espoir et sans issue, une présence va tout changer. Et c'est vrai. C'est vrai que quand Jésus-Christ s'approche de quelqu'un et qu'il entre dans sa vie, rien n'est plus jamais le même. Avant que les chaînes tombent, avant que les portes s'ouvrent, il y avait un plus dans la prison. Il y avait quelqu'un en plus. Comme dans l'Ancien Testament, quand les trois jeunes gens ont été jetés dans la fournaise ardente chauffée 7 fois, le roi Nebuchadnezzar a regardé et, en plus des trois, il y en avait un quatrième qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Quelle différence sa seule présence peut apporter ! Tous les espoirs me sont alors permis, parce que je commence à y voir clair. Je commence à voir non seulement où je suis, mais je le vois lui. Il est là pour moi, il est là pour me sauver, et parce qu'il a été plus fort que la mort, je vous le demande, qu'est-ce que 4 escouades de 4 soldats, qu'est-ce que 2 chaînes pour lui, qu'est-ce que 2 portes et même 1/3, et surtout je commence à comprendre ce qu'il manquait à ma vie. Car tous nous en sommes là, il arrive un moment où nous sentons qu'à notre vie, il manque quelque chose, et nous la remplissons avec des choses et des choses et des choses encore, jusqu'à ce que nous découvrions que ce n'est pas de choses que nous avons le plus besoin, mais de quelqu'un, de Jésus-Christ qui, par sa seule présence, apportera un rayon de lumière dans la grisaille de notre vie. Maintenant, je l'avoue humblement, il y a dans ce récit des choses que je ne peux pas expliquer. C'est comme quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ. Il se passe dans sa vie des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment le messager est entré dans la prison, je n'en sais rien. et comment Jésus entre dans une vie, je n'en sais rien, mais je sais que c'est vrai. Comment les chaînes sont tombées toutes seules, et comment Jésus fait tomber les chaînes des passions, ne me demandez pas de l'expliquer, mais je sais que c'est vrai. Comment les portes ont été franchies, et comment Jésus-Christ affranchit ceux qui se tournent vers lui et leur ouvre les portes de la liberté, je sais que c'est vrai, mais ne me demandez pas de l'expliquer. Les psychologues, les éducateurs ne comprennent rien non plus aux marginaux drogués qui se tournent vers Jésus-Christ. Leur savoir est complètement dépassé. La réalité, c'est que des centaines, des milliers de jeunes que ni rien ni personne ne peut sauver, condamnés par la médecine, qui se tournent alors vers Jésus-Christ, sont libérés des effets mortels de la drogue et se découvrent libres de le servir. Je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Mais ce que je peux vous expliquer, et après tout c'est cela qui compte, c'est que pour me sortir de moi-même, de mes péchés, de mes prisons, de ma condamnation, Jésus a dû y entrer. Là, je peux vous l'expliquer, parce que je parle d'expérience. Il a pris à son compte tout ce qui faisait le malheur de ma vie. Mes liens, il les a pris quand il a été lié comme un malfaiteur. Mes angoisses, il les a prises quand il est dit, il commença à éprouver des angoisses. Mes tristesses, il les a prises quand il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mes péchés, il les a pris quand il a été fait péché pour moi, selon ce qui est écrit, l'Éternel a mis sur lui les péchés de nous tous. Mon jugement, il l'a pris quand il a été abandonné de Dieu. Et ma mort, il l'a prise quand, selon l'Écriture encore, il est dit, il est mort pour tous. C'est-à-dire que par Jésus-Christ, tout ce que réclamait la rigueur de la loi divine face aux accusations de notre adversaire, tout a été réglé, tout a été payé, tout a été expié devant la croix de Jésus-Christ, où il nous remplace et prend notre châtiment. L'accusation de l'enfer tombe. L'enfer ne peut plus rien réclamer, ne peut plus rien exiger, parce que Jésus-Christ est mort en disant « Tout est accompli ». Voilà pourquoi, quoiqu'encore en prison, il y avait une lumière pour Pierre. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes, au chapitre 16, Paul et Silas, eux aussi en prison, chantaient les louanges de Dieu. Voilà pourquoi, cloué à une croix, un brigand mourait dans la paix en s'entendant dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Nous avons vu qu'avec Dieu, la délivrance arrive lorsque tout espoir est perdu. Mais le salut est lié à une autre condition, c'est de saisir l'heure de Dieu. Il y avait une heure pour la délivrance de Pierre, et c'était l'heure où Dieu lui a envoyé son messager. Dans notre vie, il y a aussi un moment plus important que tous les autres, plus important que le jour des fiançailles, plus important que le jour du mariage, plus important que le jour où naissent nos enfants, même plus important que le jour de la mort. C'est celui où Jésus-Christ croise votre chemin et où vous entendez les appels au salut. Croyez-moi, il n'y a pas au monde de moment plus important ni plus favorable que celui-là. Et pour certains, ce moment est arrivé ce soir, et il vous faut décider. Mais si je vous presse, et je le fais, si je vous presse d'être sauvé, que Dieu me garde de faire du salut une chose hâtive, fébrile, précipitée ou bâclée. Non, 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 on ne se convertit pas dans la pagaille. Remarquez que si le messager a dit à Pierre « Lève-toi promptement », il lui a aussi dit « Mets ta ceinture ». Puis il lui a dit « Enfile tes sandales ». Et il lui a même dit « Enveloppe-toi de ton manteau ». Cela veut dire que s'il n'y a pas un instant à perdre, et cela je le répète, la plus grande décision de ma vie ne doit pas être exempte de réflexion, de volonté et de pondération. Pendant la prédication, au-delà des mots et des phrases, vous avez entendu une voix qui a parlé à votre cœur et à votre conscience. C'est celle de Dieu. Et durant cette prédication, vous avez eu le temps de prendre vos dispositions intérieures. Tout est en place à présent. Tout est clair dans votre esprit. Rien de ce qui vous était utile pour être sauvé n'a été oublié. Il ne vous reste plus qu'à dire, selon le texte que j'ai lu, selon les paroles mêmes du Fils prodigue, « Seigneur, je me lève et je viens ». Cette parole, après mûre réflexion, plaise à Dieu que vous la disiez non seulement ce soir, mais maintenant. Et vous pouvez lui dire, lui parler, prier, c'est lui parler, lui dire, peut-être même en répétant les mots que je vais dire lentement, s'ils vous conviennent, lui dire, alors que vous vous recueillez, nous nous recueillons tous, lui dire, Seigneur, Seigneur, de tout mon cœur, et en pleine connaissance de cause, je fais monter vers toi cette prière, dites-le-lui. Je fais monter vers toi cette prière. Seigneur, je veux sortir de mes prisons intérieures. Aujourd'hui, tu m'as offert le salut. Dites-le-lui. Tu m'as dit comment être sauvé. Tu me dis, lève-toi et viens. Eh bien, Seigneur, maintenant, je me lève et je viens à toi. Je me tourne vers toi, je me donne à toi, je saisis ton pardon, j'en ai besoin. Seigneur, je te reçois dans ma vie et dans mon cœur maintenant. Merci, Seigneur. Mes amis, nous sommes arrivés au bout de cet effort, de cette campagne. Nous quittons, et bien que je reste à la disposition, libre pour un entretien, n'oubliez pas que nous pouvons avoir cet entretien. Rentrez chez vous, avec ces paroles, cet appel qui résonne dans votre cœur. Le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et bonsoir.